seulement 950 millions d'euros négociés. Alors ce manque d'activité s'explique bien sûr par l'absence de nombreux intervenants qui font le pont, mais aussi par la publication à 14h30 des chiffres de l'emploi américain relatifs au mois d'avril. Sur le marché d'échange, peu de mouvement. L'euro est à 1,2950, moins 0,03%. Et sur les marchés de l'or, au premier fixing, l'once reprend 55 cents à 429,70$. Je vous redonne le CAC 40, moins 0,24% à 4009 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Nous écoutez France Inter, il est 14h03, on part tout de suite à Reims pour 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Jalinet.
Bonjour Claire Servageant et bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, dans les faits, nous sommes en public et en direct de Reims, où il y a 60 ans à 12 heures près, a été signée la capitulation de l'Allemagne. C'était le 7 mai 1945.
It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies.
D'histoire. Le 7 mai 1945, dans l'après-midi, les auditeurs de la radio américaine que l'on vient d'entendre étaient les premiers à apprendre la fin en Europe d'une guerre qui, pendant plus de 5 ans, avait fait 55 millions de morts. Quelques heures plus tôt, à 2h41 du matin, au premier étage d'un collège de Reims, où le général Eisenhower avait installé son état-major, le général allemand Jodl avait signé l'acte de capitulation de toutes les forces armées du Troisième Reich. Mais il fallut attendre encore quelques heures pour que, simultanément, le président des États-Unis, Harry Truman, le général de Gaulle et le premier ministre britannique annoncent officiellement la fin en Europe de la guerre la plus meurtrière de tous les temps. C'était il y a 60 ans, le 8 mai 45, à 15h.
This is London. The Prime Minister, the Right Honorable Winston Churchill.
Yesterday morning, at 2:41 a.m.,
hier matin, à 2h41, au quartier général du général Eisenhower, le général Jodl, représentant du haut commandement allemand, a signé l'acte de reddition sans condition de toutes les armées allemandes, de terre, de mer et de l'air en Europe, auprès des forces expéditionnaires alliées.
To the Allied Expeditionary Force. Hostilities will end.
Les hostilités auront cessé officiellement à minuit une ce soir, mardi 8 mai.
Tonight, Tuesday, the 8th of May. Advance Britannia. Long live the cause of freedom. God save the king.
Philippe Buton, Marc Bouxin, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors c'était Winston Churchill, une archive émouvante, le 8 mai 45. Il annonçait solennellement un des événements les plus importants du XXe siècle. Il s'était produit la veille, à quelques centaines de mètres du centre des congrès de Reims, où nous sommes aujourd'hui. C'était la fin de la guerre en Europe, que l'on célèbre depuis 60 ans tous les 8 mai. Pourquoi le 8 mai, Marc Bouxin, vous êtes conservateur du musée de la reddition, l'endroit même, ici à Reims, où a été signée cette capitulation, et pourquoi célèbre-t-on la fin de la guerre en Europe le 8 mai, alors qu'elle a été signée le 7 dans cette ville?
Tout simplement parce que l'acte de reddition de Reims prévoyait dans ses différentes clauses que les combats cesseraient effectivement le lendemain 8 mai à 23h01. Il a été convenu également que la nouvelle serait officiellement annoncée dans toutes les grandes capitales occidentales le lendemain 8 mai à 15h. Alors pourquoi ce délai ? Simplement, l'état-major allemand, qui initialement avait essayé de négocier un cessez-le-feu séparé sur le front de l'Ouest, la tentative n'avait pas fonctionné, bien sûr. Malgré tout, les alliés ont accordé un délai aux Allemands pour leur permettre de rapatrier un maximum de population et de troupes en zone occidentale. D'où ce décalage.
Pour compliquer les choses, il faut rappeler qu'il y a eu une deuxième capitulation signée 48 heures après à Berlin, présidée par le maréchal russe Yukov, si bien que les Russes, eux, célèbrent le 8 mai, si je puis dire, le 9 mai. Alors, il s'agit, Philippe Buton, vous êtes historien, professeur à l'université de Reims, il s'agit, on l'a entendu, d'une reddition, d'une capitulation sans condition et non pas, comme on le dit souvent, d'un armistice. Alors, il faut peut-être préciser, en 18, c'était un armistice, en 1945, c'est une capitulation. La différence entre les deux?
Il y a un lien de relation directe, hein. Il y a une relation directe entre l'événement de 1918 et l'événement de 1945. J'ai en mémoire une très belle affiche américaine qui a été collée sur les murs d'Alger en 1943 et qui dit « cette fois jusqu'à Berlin ». Pourquoi cette fois? Parce que précisément en 1918, les Français, les Anglais, les Américains n'étaient pas allés jusqu'à Berlin. Or, les conséquences avaient été dramatiques. C'est-à-dire que la population allemande n'avait pas perçu le sentiment de la défaite au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc, elle avait cru à la thèse de la droite nationaliste allemande de la trahison.
Coup de poignard dans le dos.
Voilà, le coup de poignard dans le dos. Alors qui? Les juifs, les communistes, enfin bref. Donc, pour éviter cette légende du coup de poignard dans le dos, il avait été décidé en 1943 par Staline, Roosevelt et Churchill que cette fois-ci, on exigerait la capitulation sans condition.
C'est-à-dire la reddition totale, la livraison des armes, l'arrêt des hostilités qui étaient prévues à 23h01. Churchill a dit à 0h, je crois que c'était un décalage horaire, c'était 23h01 en Europe centrale. Alors, cette décision de faire capituler les Allemands avait été prise 2 ans plus tôt, à la conférence interalliée de Casablanca. On courait le risque, bien sûr, de pousser les Allemands à se battre jusqu'au bout, hein, en leur imposant cette capitulation. Cela dit, au début de l'année 1945, ils ne sont plus en mesure de renverser le cours des choses, ni même de résister aux forces alliées qui envahissent l'Allemagne de toutes parts et qui sont bien décidées à lui faire payer très cher 5 ans de guerre et d'occupation, comme le prouve le ton de ce commentaire très dur des actualités françaises de l'époque.
Il a fallu 5 ans pour en arriver là, 5 ans de nuit noire. Et c'est avec le sang des hommes et les pleurs des femmes qu'on a payé ce mot-là, victoire. Déjà depuis 15 jours, l'Allemagne n'est plus qu'une terre vaincue. Toutes les routes s'ouvrent devant les armées victorieuses. Dans leur marche, elles ne rencontrent maintenant que des drapeaux blancs, que des populations passives, prêtes à tous les abandons et à toutes les collaborations. Où sont les nazis? Ils ont renié leur dieu. Une nouvelle fois dans le cours de son histoire, le peuple allemand accepte la défaite. De toutes parts, la Wehrmacht s'effondre. La formidable machine de guerre tombe en pièces. Ces hommes, partis sur les routes d'Europe un jour de 1939 pour la conquête du monde, on les retrouve sur les routes d'une patrie qui se réduit d'heure en heure. L'armée allemande n'est plus qu'une horde de captifs.
Étonnant le ton de ce journaliste. Nous sommes, le contexte c'est évidemment le début de l'année 45, après l'entrée des alliés, les Russes à l'est, les Anglais, Français, Américains à l'ouest, mais c'est étonnant aujourd'hui, Philippe Buton.
Je suis assez fasciné par cette archive, parce que en ce moment on organise un colloque qui s'appelle de la capitulation à la réconciliation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réconciliation c'est pas l'ordre du jour en 1945. Cette violence est extrême. Je crois qu'il n'y a jamais...
Il y a 5 ans d'occupation, il y a des souffrances indicibles de la part des pays occupés.
Il y a 3 guerres au moins d'un siècle. Oui. Et à chaque fois, on a franchi des seuils dans l'horreur. Mmh. La haine n'a jamais été aussi profonde entre les peuples allemands et français qu'en 45.
Alors, où en est la situation militaire au moment de ce commentaire, c'est-à-dire, disons, fin avril, tout début mai 1945, il faut rappeler qu'il y a déjà eu une capitulation de l'armée allemande d'Italie. 600 000 hommes qui ont déjà capitulé, je crois. C'était le 29 avril.
C'est la débâcle. Je veux dire, la question est simple, c'est la débâcle. Et donc, les troupes, il n'y a plus de front en tant que tel. Il y a des armées allemandes qui sont plus ou moins dispersées, qui essayent de se battre et qui essayent de se rendre, parce que la situation est véritablement désespérée. Le problème devient un problème politique. C'est-à-dire qu'il faut éviter, si j'ose dire, de saucissonner le problème militaire. Il faut qu'il y ait une capitulation générale. C'est l'objectif que se donne Eisenhower.
Marc Bouxin, vous le rappelez aussi, donc il y a eu cette capitulation en Italie, et là on sent bien que les Allemands essayent de disloquer au fond le front allié en quelque sorte, d'obtenir des capitulations partielles à l'ouest avec les troupes anglo-franco-américaines. Ce qui mécontente d'ailleurs les Russes, cette capitulation italienne est très mal vue par Staline parce qu'il disait mes alliés sont en train de me lâcher.
Effectivement, en fait, l'Allemagne avait encore une certaine force de résistance, mais le grand souci de l'état-major allemand, c'était le péril soviétique. Et notamment, en ce qui concerne la reddition partielle d'Italie, il y avait l'avancée de l'armée rouge vers la Hongrie et surtout les succès de la résistance communiste yougoslave qui menaçait directement Trieste. Et la grande crainte, c'était que ce grand port tombe aux mains des communistes et permette à l'Union soviétique d'installer sa mainmise sur l'Italie du Nord, l'Autriche et ainsi de suite. Les Allemands, eux, craignaient énormément l'armée rouge, les vengeances, et l'état d'esprit à tout prix essayer d'obtenir une négociation de cessez-le-feu séparé avec les alliés occidentaux, de façon à faire obstacle à l'avance rouge.
Alors c'est ce qui se passe en Italie le 29 avril. Le lendemain, il faut le rappeler, le 30 avril, les Russes entrent dans Berlin, où Hitler se suicide et où il passe le pouvoir à l'amiral Dönitz, au chef de sa flotte, Dönitz, qui va encore gouverner l'Allemagne pendant 7 jours. Hein. Et Dönitz qui, justement, essaye par tous les moyens d'obtenir une capitulation uniquement avec les Américains, indépendamment des Russes, et jusqu'à ce que le 7 mai enfin, eh bien, ils finissent par accepter cette capitulation, une capitulation annoncée à la radio par le ministre des Affaires étrangères allemand, le comte Schwerin von Krossig, à Flensburg, le 7 mai 1945.
Ici la voix du Canada. This is Canada.
Radio Flensburg, contrôlée par les Allemands, a annoncé cet après-midi que l'amiral Dönitz avait ordonné la reddition sans condition de toutes les forces armées du Reich.
Le commandement suprême de l'armée, sur l'ordre du grand amiral Dönitz, a proclamé aujourd'hui la capitulation sans condition de toutes les troupes combattantes. Après un combat de près de 6 années, d'un héroïsme inégalé, la force de l'Allemagne a succombé à la puissance écrasante de ses adversaires.
Et c'était le ministre des Affaires étrangères allemand annonçant que l'amiral Dönitz acceptait donc cette capitulation. Mais pendant 7 jours, donc, il a refusé, vous le disiez, Marc Bouxin, c'était parce que il souhaitait continuer de se battre à l'Est pour permettre au maximum de civils et de militaires allemands de venir se réfugier à l'Ouest parce qu'ils craignent l'avance des soviétiques. Cela dit, en fait, ils cherchent à gagner du temps. Cela dit, d'ailleurs, il y a une signature encore de capitulation partielle avec Montgomery. Cela dit, Eisenhower, qui est le commandant en chef allié en Europe de l'Ouest, lui, il refuse. Il n'est pas question pour lui d'accepter une autre capitulation, qu'une capitulation totale.
Tout à fait. Se référant aux accords de Casablanca, comme vous le disiez. En plus, bon, il y avait la révélation du génocide. Lui-même avait visité un camp d'extermination et ça l'avait énormément marqué. Il y a aussi les réactions de Staline, comme vous l'aviez dit, après la reddition partielle en Italie du Nord de Caserte, où Staline était mieux renseigné que Roosevelt au début et Truman après, parce qu'il avait des taupes dans les services secrets américains. Oui. Et il n'a pas été dupe des tentatives de cessez-le-feu séparé sur le front occidental. D'où la pression qu'il a mis sur les puissances occidentales, l'état-major allié, et naturellement Eisenhower se refusait à tout prix de faire une paix séparée.
Alors le premier émissaire que reçoit Eisenhower, c'est un amiral, l'amiral von Friedeburg, qui est à la tête de la marine allemande. Il a succédé à Dönitz quand celui-ci est devenu lui-même chancelier. Et cet amiral arrive donc à Reims, hein, puisque Reims, pourquoi nous sommes-nous à Reims? Pourquoi cette capitulation a-t-elle été signée à Reims? C'est parce que c'était le quartier général d'Eisenhower, à l'endroit même qui est devenu un musée et dont vous êtes le conservateur, Marc Bouxin. Et Eisenhower Eisenhower dit à ce Friedeburg, pas question d'une capitulation partielle, je veux une capitulation totale. Et à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus tellement le choix, Dönitz finit par céder. Il envoie à Reims un émissaire plus important que Friedeburg, qui est le général Jodl, qui est le chef d'état-major général de l'armée allemande. Jodl qui arrive, je crois, le 6 mai à Reims.
Oui, le 6 mai vers 17h sur l'aéroport de Reims, à bord d'un avion américain baptisé Marilou, avec une superbe pin-up peint sur la carlingue. Il y avait un contraste entre l'aspect très rigide, très prussien d'Jodl et son engin de transport. En fait, lorsque Jodl est arrivé à Reims, il avait encore l'espoir de négocier un cessez-le-feu séparé. C'est pour ça que Dönitz l'a envoyé pour essayer de forcer la décision. Et c'est devant l'intransigeance d'Eisenhower que dans la nuit du 6 ou 7 mai, Jodl a accablé un téléphone codé à Dönitz en disant ben voilà, il n'y a plus rien à faire. Et comme les Allemands souhaitaient conclure au plus vite aussi, parce que tant que la résistance se faisait sur le front occidental, les Russes avançaient. Donc il n'y avait guère d'intérêt à poursuivre la résistance. Et d'ailleurs, Dönitz avait même envoyé un message à Eisenhower en disant en substance, même si vous refusez un cessez-le-feu immédiat, moi je donnerai l'ordre aux troupes allemandes d'arrêter de combattre les alliés occidentaux. Donc très vite on a trouvé l'accord, Dönitz s'est rangé à la chose. Mais il y a eu une petite clause un peu secrète.
Oui, mais ça on y reviendra. Voilà. Donc ça se passe dans la nuit du 6 au 7 mai, mm-hmm. dans une salle extérieure qui était vraiment conservée en état. Je l'ai visitée hier, c'est très impressionnant quand on pense que la fin d'une guerre qui a fait 55 millions de morts s'est jouée à ce moment-là, enfin du moins en Europe, elle est vraiment en état. Et ça s'est passé dans cette école, de ce collège qui était servi de quartier général à Eisenhower. Et il y avait autour de la table, donc il y avait Jodl, il y avait Friedeburg qui était encore là, mais Jodl c'était la puissance signataire. Oui. En face, il faut le rappeler, il y avait un russe, parce que justement Eisenhower y tenait, c'était le général Soussloparov. Il y avait un britannique qui était l'amiral Bureau. Il y avait un français aussi, hein, le général Seves, qui signe tous les quatre, puisque c'est Jodl qui a commencé à signer à 2h41 du matin très exactement à Reims, qui signe donc cette capitulation qui va évidemment faire l'objet des commentaires du journaliste qu'on a entendu tout à l'heure.
Et Dönitz offre la capitulation sans condition de l'Allemagne. Elle est signée à Reims le 7 mai, dans une salle d'école, devant les représentants du haut commandement interallié, par le général Jodl, accompagné de l'amiral von Friedenburg. Cette fois, c'est bien fini. Le rideau tombe. Français, avec nos alliés anglais, américains et russes, nous signons la fin de la tragédie. Reims est notre récompense. Et le général Eisenhower peut dire, je pense qu'il est particulièrement symbolique que la reddition ait été signée au cœur de la France. Ce pays qui a tant souffert, ce pays où nous avons débarqué en juin dernier et dont les forces armées et les mouvements de résistance nous ont tant aidés.
The country in which this invasion force landed last June and the one in which the forces and resistance movements have helped us so much.
Et c'était le discours d'Eisenhower à Reims, quelques minutes à peine après la capitulation allemande. Un discours, en fait, que très peu de gens ont pu entendre, puisqu'il n'était réservé qu'aux journalistes, vous l'avez rappelé, Marc Bouxin, auquel on a demandé le silence. Or, il se trouve que dès le 7 mai, il y a eu quelques indiscrétions, et on l'a appris, on a entendu tout à l'heure, la radio américaine qui, dès le 7 mai, annonçait cette capitulation.
Tout à fait. En fait, il y a eu deux fuites. D'une part, la radio allemande, que vous avez cité en archive tout à l'heure, qui a annoncé la nouvelle in live, si je puis dire, et une brebis galeuse dans le staff de correspondant de guerre, un dénommé Kennedy de la société de presse, bon, qui a lâché le morceau pour avoir le scoop.
Ah oui, évidemment. Alors, parce que en fait, on avait décidé de tenir la nouvelle secrète jusqu'au 8 mai à 15h, pour une capitulation, vous voyez, je fais moi-même le lapsus, une capitulation qui devait être effective le 8 mai, hein, à 23h01.
Voilà, on retombe sur ce souci d'accorder aux Allemands un délai pour leur permettre de rallier un maximum de population civile et de troupes en zone occidentale.
C'est pour ça qu'il y a eu un décalage de 36 heures.
Voilà.
Hein, parce qu'on pourrait se dire, au fond, 36 heures, c'est énorme. Ça veut dire qu'il va encore y avoir beaucoup de morts, les derniers morts de la guerre. Et c'est en fait pour, c'est pour aux Allemands.
Alors, en fait, les combats ont effectivement cessé sur le front occidental dans la foulée. Mais vous aviez le front qui a continué à résister côté russe. Et entre-temps, bon, les troupes populations qui glissaient vers l'ouest.
Tandis que Winston Churchill, qu'on a entendu, le président Truman et le général de Gaulle en France attendaient donc, comme prévu, le 8 mai à 15h pour annoncer la fin de la guerre en Europe.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. L'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Ah, vive la France!
Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est absolument du délire qui prend aujourd'hui la foule de Paris. Le général de Gaulle vient de terminer son discours, les hymnes nationaux viennent de retentir à la TFF, et en bas du bâtiment de la radio du 118 Champs-Élysées, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont groupées pour attendre les dernières nouvelles. Tout le monde entend la Marseillaise que vient de diffuser la radio. Je crois que mieux des paroles, l'enthousiasme de la foule vous donnera une idée exacte de ce qu'est aujourd'hui l'enthousiasme du peuple de Paris. Rien ne manque à la fête, le soleil est resplendissant, les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées, toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains, et enfin retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris!
Alors on a souvent l'occasion d'entendre la Marseillaise, mais celle que l'on vient d'entendre chanter le 8 mai 1945 sur les Champs-Élysées, où elle avait été interdite pendant 4 ans d'occupation, évidemment elle est émouvante. Cela dit, nous sommes le 8 mai là, ce qu'on vient d'entendre ça se passe le 8 mai, il y a eu une deuxième capitulation à Berlin dans la nuit du 8 au 9 mai. Pourquoi ? Parce que les termes sont pratiquement les mêmes, ceux qui sont signés, sauf que les partenaires sont plus les mêmes. Il y a le général Yukov qui préside, il y a le maréchal Keitel, alors lui le chef de l'ensemble de l'armée allemande qui est là et qui signe pour l'Allemagne. Il y a un Français, le général Delattre. Mais pourquoi cette deuxième capitulation, Philippe Buton ?
Parce que les questions militaires sont réglées, mais restent les questions politiques. Et Staline ne veut pas que la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe soit symbolisée par Reims. Et pour une raison simple, c'est que quel est le niveau de représentation soviétique à Reims ? C'est un général de bas niveau, c'est un général de liaison. Mmh. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est que clairement l'Union soviétique est, sinon le premier plan, aussi ce qui va se passer pour la mémoire à l'Est, mais en tout cas au moins soit à égalité avec les autres puissances parties prenantes.
Et c'est donc signé juste après minuit, donc le 9 mai, hein. C'est pour ça que les Russes célèbrent le 8 mai, je l'ai dit tout à l'heure, le 9 mai, et en présence d'un...
Non, parce que justement, j'ai entendu il y a 2 heures une communication d'un collègue russe qui a travaillé dans les archives ouvertes depuis relativement peu de temps. On voit très précisément comment Staline a mis, si j'ose dire, le paquet pour pouvoir dissocier et progressivement effacer Reims.
De Gaulle aussi, parce qu'il voulait qu'en remplacement du général Seves, qui était lui aussi un officier de liaison, il y ait le général Delattre, commandant la première armée.
Vous avez tout à fait raison, mais non seulement le général Seves est un officier de liaison, mais surtout, c'est marqué comme témoin. Mmh. Autrement dit, symboliquement, ça voulait dire que la France n'était que spectatrice de la lutte et pas une actrice.
Une signature donc dans la nuit du 8 au 9 mai, commentée avec lyrisme, comme d'habitude, par les actualités de l'époque, il y a tout juste 60 ans.
Reims est le nom de la justice, Berlin est le nom du châtiment. Drame à deux voix, Yukov demande, êtes-vous prêt à signer ? Keitel n'a qu'un mot, ya. Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Keitel regarde, il est prussien, il pense à Iéna, il pense à Rotonde. Il pense qu'il y a encore une fois un nom français au bas de ce papier et qu'une signature, c'est un destin qui se ferme.
Et soudain, un silence énorme couvre l'Europe. Les canons se sont tus. Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté.
C'était donc un commentaire de la capitulation signée à Berlin. Il faut rappeler que c'est pas la fin de la guerre. La guerre se poursuit encore en Asie. Elle va se poursuivre dans le Pacifique jusqu'au mois d'août, jusqu'à Hiroshima. Mais quand on entend ce commentaire, j'y reviens, Philippe Buton, vous animez en ce moment un colloque qui s'appelle Reims 45-62 et le rapprochement franco-allemand. Là, on en est loin du rapprochement franco-allemand. Il s'est produit à Reims aussi, je crois, en 1962.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Il est clair que une des motivations pour lesquelles le général de Gaulle a convié Adenauer à Reims en juillet 1962, c'est précisément ce passé de Reims comme ville des deux guerres mondiales, quasiment détruite en 1914, la cathédrale mutilée, et 1945, la revanche avec la capitulation. Cela dit, je crois qu'il y a une deuxième raison pour laquelle le général de Gaulle a choisi Reims, c'est que Reims, c'est pas seulement la ville symbole des deux guerres mondiales, c'est aussi une autre, c'est une spiritualité, c'est Jeanne d'Arc, c'est le sacre. Et je crois que De Gaulle a voulu que la réconciliation franco-allemande bénéficie un peu de la sanction divine.
Et c'est un très beau musée aussi, justement, le musée de la reddition dont vous êtes, Marc Bouxin, le commissaire. Je crois qu'il faut venir le voir, parce que moi j'étais bouleversé hier en voyant cette table, ouais. Ces chaises qui n'ont pas bougé depuis 60 ans.
C'est vrai, la salle, la War Room, là où a eu lieu la cérémonie de la capitulation, est restée exactement dans l'état. Elle est aujourd'hui classée monument historique par la volonté de la ville de Reims et de l'État. Et dès le lendemain de la capitulation, il y a eu cette volonté de tous les témoins des Américains de la préserver, de faire en cette de mémoire. Tout de suite, les enfants des écoles ont pu visiter. Le 7 juillet 45, le général américain Lord a remis officiellement les clés au maire de Reims. Et dans la foulée, le 15 juillet 45, le site a été ouvert au public.
Et il faut le visiter. Merci Philippe Buton et Marc Bouxin. Philippe Buton, vous êtes l'auteur, je le rappelle, de La Joie douloureuse, La libération de la France, publié aux éditions Complexes. Et Marc Bouxin, vous venez de publier avec Jacques Pernet La parade de la victoire, Reims, 9 mai 45. Mais il faut le rappeler, vous nous l'avez rappelé aujourd'hui, que c'est à Reims que s'est terminée la guerre, dans la nuit du 6 au 7 mai 1945 et non pas le 8 ou le 9 à Berlin. Vous avez pu entendre des extraits d'archives de guerre 1940-45, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, un DVD passionnant distribué par le Nouveau Monde, édition de Elina. Je rappelle également beaucoup d'autres manifestations pour ce 60e anniversaire de la capitulation allemande, le colloque que vous animez en ce moment même, Philippe Buton, et puis cette exposition.